Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Madame la députée Marie Pochon. Bonjour.
Bonjour.
Marie Pochon, vous êtes élue députée écologiste au sein de la NUPES et vous êtes aussi donc ici pour nous parler un peu de l'actualité qui est assez tendue en ce moment avec cette réforme des retraites. Il y a aussi l'agriculture qui est problématique. La raréfaction de l'eau est également un problème, tout comme les déserts médicaux qui se propagent de plus en plus. Et puis on abordera aussi l'aspect du féminisme aujourd'hui et comment mobiliser toutes les générations sur ce problème du féminisme et aussi des minorités de genre particulièrement. Et avant tout, Marie Pochon, vous êtes députée et vous êtes donc vous agissez au sein de l'Assemblée nationale au travers de commissions, celle des affaires culturelles et de l'éducation.
Alors, on est dans un moment un petit peu particulier en ce moment, donc je peux vous préciser. Moi, je siège dans la commission développement durable, aménagement du territoire, c'est-à-dire que j'agis notamment sur les questions environnementales et les questions de transport dans le cadre de l'aménagement du territoire. Là, on est dans un moment un tout petit peu particulier parce qu'avec le groupe des écologistes, on prépare notre niche. Vous savez que la plupart des textes que nous étudions à l'Assemblée nationale sont des textes qui sont proposés par l'exécutif, par le gouvernement, mais une journée par an, chaque groupe d'opposition a le droit de proposer son ordre du jour et donc d'inscrire des textes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et c'est notre droit d'initiative parlementaire qui est très limité, puisque une journée par an, c'est pas grand-chose. Ça commence à 9h, ça finit à minuit et on essaye de faire passer le maximum de textes possible. Et nous, notre journée de niche est le 6 avril pour le groupe écologiste. Donc on va faire un certain nombre de propositions pour l'alimentation, pour l'interdiction des diètes privées, pour le retour du RSA jeune notamment. Et donc, dans le cadre de la préparation de cette niche parlementaire, on a un petit peu bougé les rôles dans le groupe. Et donc, pendant un mois, je suis membre de la commission culture et éducation. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir faciliter le portage des différents textes de notre niche le 6 avril prochain.
Tout récemment, s'est ouvert le salon de l'agriculture. Vous y êtes allé. Vous êtes allé à la rencontre aussi des agriculteurs, des acteurs du monde agricole, des acteurs drômois, dont Alain Aubanel, qu'on a encore entendu récemment sur cette problématique de la lavande. Il y aurait peut-être un mot à dire dessus. On peut d'ailleurs commencer dessus par rapport à cette lavande qui est quand même une vitrine du Diwa. Alors, qu'en est-il? Je sais qu'il y a une répartition agricole qui s'opère à travers la France sur des domaines de plusieurs centaines d'hectares, voire de milliers d'hectares de lavande qui n'ont rien à voir avec celle d'ici. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une remise en forme de ces attributions ou de ces appellations sur des exploitations?
Oui, alors concernant la lavande, alors j'ai effectivement eu le plaisir d'échanger avec énormément d'acteurs, notamment drômois, au Salon de l'agriculture. J'y suis restée pendant 3 jours. Donc j'ai pu échanger avec la Chambre, j'ai pu échanger aussi avec les syndicats agricoles, j'ai pu aussi échanger avec un certain nombre d'agriculteurs, d'éleveurs venant de la Drôme, échanger sur les stands du Picodon notamment, la question de la lavande, la question du nougat aussi, de Montségur-sur-Lauzon. Donc c'est vraiment une fierté que d'avoir autant de producteurs qui étaient présents à Paris pour montrer l'étendue de l'agriculture drômoise. Et je pense que c'est une vraie fierté de notre territoire. Et donc, c'est mon boulot aussi que de les défendre. Effectivement, sur la question de la lavande, il y a plusieurs enjeux aujourd'hui. Il y a l'enjeu de la surproduction que vous avez mentionné. Aujourd'hui, on voit de la lavande, des productions de lavande, notamment dans la Beauce, sur des immenses plaines. Et en fait, ça contribue à la baisse des coûts. et notamment des prix de la lavande. Et ça, ça impacte principalement celles et ceux qui, ici, sur nos territoires montagneux, ici, sur des territoires où rien d'autre ne pousse, finalement, parfois, que de la lavande, ben, on ne peut plus en vivre. Et donc, ça met en grande difficulté les lavandiculteurs. Il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent à cela, des problèmes de réglementation, notamment sur les huiles essentielles. Donc ça, c'est des batailles qui se mènent au niveau européen et on est assez impliqué là-dessus, que ce soit avec Madame la sénatrice socialiste Marie-Pierre Monnier de la Drôme, que ce soit avec Michel Rivasi, qui est eurodéputé aussi originaire de la Drôme, qui se bat sur ces sujets-là au niveau européen, avec Joël Labbé, qui est sénateur écologiste. Donc voilà, on se bat un peu tous ensemble pour faire évoluer la réglementation au niveau européen pour autoriser la commercialisation des huiles essentielles de lavande. Ça, c'est le deuxième sujet. Puis le troisième sujet qui impacte beaucoup la filière lavande, c'est le changement climatique, les impacts des changements climatiques. Auparavant, la lavande, on ne l'arrosait pas, mais aujourd'hui, on est forcé de l'arroser. Et puis, la lavande est très affectée par les canicules et par les sécheresses, c'est-à-dire que les plants brûlent. Et donc, on n'est plus en capacité, parfois, sur nos territoires, de faire pousser de la lavande. Donc, c'est toutes ces problématiques qu'il nous faut traiter. Moi, je suis aux côtés des lavandiculteurs, je suis aux côtés aussi de la filière aval, hein, comment on arrive à distiller, comment on arrive à avoir ces huiles essentielles qui puissent être utilisées au quotidien. Donc voilà, moi, j'accompagne effectivement cette filière. On a des initiatives en ce sens sur la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO des territoires de lavande. Ça, c'est une initiative qui est portée par de multiples acteurs par ailleurs, mais que je soutiens. Et puis, effectivement, il faut trouver le moyen de reconnaître et valoriser la production de lavande sur nos territoires, là où rien d'autre ne pousse, pouvoir appuyer nos lavandiculteurs ici.
Il y a le coût de l'énergie aussi, hein, dans la constitution des huiles essentielles. Ça aussi, c'est un frein au développement et peut-être même à une sérénité dans cet exercice. Qu'en est-il pour vous, cette préoccupation du coût de l'énergie, que ce soit pour les producteurs, mais même pour les particuliers ?
Bah, ça impacte effectivement les coûts de l'énergie qui ont explosé ces derniers temps, impactent beaucoup notre agriculture. Mais nous, ce qu'on a beaucoup dit au Salon de l'agriculture, j'y étais aussi avec une délégation écologiste jeudi dernier, on est allé voir l'ensemble des acteurs des filières agricoles, certains avec lesquels on partage un certain nombre de constats. On ne partage pas toujours les mêmes solutions, mais en fait, on fait face à un modèle agricole, de manière générale, qui ne fonctionne pas. Un Français sur cinq aujourd'hui qui ne mange pas à sa faim dans le pays. Et en même temps, on a 22% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le double de la population générale. C'est un suicide tous les 3 jours, hein, qu'on vit dans l'agriculture. Et notre système agricole est malade d'un système d'intrants importés, ce qui fait exploser aussi les coûts, hein, puisque tout cela aussi, c'est des engrais généralement issus des produits pétroliers. La surexploitation des sols, la surproduction, l'industrialisation, notamment dans le cadre de l'élevage, les méga-fermes qu'on voit pousser partout. Alors, ce n'est pas le cas dans la Drôme, et ça doit être une fierté, et on doit pouvoir continuer à pouvoir porter un modèle agricole qui repose sur des petites exploitations en agroécologie, qui tendent vers le bio, qui tendent vers une moindre consommation d'eau et de l'usage de l'irrigation. Donc oui, c'est des modèles qu'il nous faut aujourd'hui soutenir, mais ce n'est pas ce qu'on voit se développer au niveau national. La France est championne d'Europe d'utilisation des pesticides. On s'est fait taper sur les doigts, notamment sur la question des néonicotinoïdes au niveau européen. Mais de fait, la France s'est assurée qu'aucun plafond, d'un point de vue de l'appui public aux filières, notamment betteravières et sucrières françaises, ces appuis publics ne souffriraient d'aucun plafond. Donc en fait, finalement, on a de l'argent public qui est déversé par des aides assurantielles de l'État, par des subventions, notamment de la PAC, qui vont finalement soutenir les plus grosses exploitations, celles qui sont les moins riches en main-d'œuvre, celles qui abîment finalement le plus nos sols et nos écosystèmes qui sont les plus nécessiteuses en matière d'irrigation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut accompagner la transition du modèle agricole, accompagner nos agriculteurs et agricultrices qui ont bien compris les enjeux auxquels nous faisons face avec les changements climatiques. C'est eux aujourd'hui qui promeuvent un certain nombre de solutions en matière d'irrigation responsable, en matière de moindre utilisation des phytosanitaires. On voit aujourd'hui des changements incroyables dans la filière agricole, des agriculteurs qui s'adaptent, des éleveurs qui s'adaptent à cette nouvelle donne climatique. Le rôle des pouvoirs publics, ce n'est pas d'être bloquant, c'est pas de baisser les bras, notamment sur la question du bio, c'est d'accompagner les changements qui sont en cours dans le monde agricole. Le fait est que le modèle agricole aujourd'hui et le système agricole en France pèse pour à peu près 19% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Donc c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Mais principalement, les agriculteurs et les agricultrices sont en première ligne face au changement climatique. Et donc les sécheresses que nous avons connues l'été dernier, les sécheresses hivernales dont nous ne sortons pas, puisqu'il n'a vraiment pas plu assez suite à ces 45 jours sans pluie sur l'ensemble du territoire, tout cela va affecter grandement tous les agriculteurs sur nos territoires. Et donc nous, notre boulot, c'est de les accompagner, de trouver les solutions, qu'ils ne soient pas seuls face à cette sécheresse, face à l'ensemble des impacts des changements climatiques et qu'on arrive à trouver les solutions pour garantir une souveraineté alimentaire dans les années à venir, garantir que chacun, chacune dans ce pays ait accès à une alimentation saine et locale, et par ailleurs garantir la dignité des conditions de vie de celles et ceux qui nourrissent le monde aujourd'hui. C'est pas normal que ce métier-là d'agriculteur, d'agricultrice, de paysan, de paysanne, ce métier-là ne permette pas à celles et ceux qui le font de vivre. Aujourd'hui, les salaires en matière agricole sont absolument dérisoires. On parle beaucoup des retraites, de la réforme des retraites. La moyenne des retraites dans le secteur agricole, c'est 800 euros. Donc bien moindre que le seuil de pauvreté. Là, on a un enjeu fondamental à rémunérer le travail agricole qui est absolument essentiel. Et donc c'est notre combat en tant qu'écologiste, c'est le combat que nous menons avec l'ensemble de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale. Et moi, je serai beaucoup mobilisée sur ces enjeux-là puisque je vais être chef de file pour le groupe écologiste lors de l'examen de la loi d'orientation agricole en septembre-octobre prochain. On va avoir un enjeu majeur d'installation sur nos territoire. Aujourd'hui, un agriculteur sur deux va partir à la retraite d'ici 10 ans. On a là un levier exceptionnel pour pouvoir accompagner la transition, la transformation de notre modèle agricole vers un modèle agroécologique, un modèle respectueux de la biodiversité et des écosystèmes, un modèle qui soit résilient face au changement climatique et un modèle qui rémunère pleinement nos paysans et nos paysannes.
C'est une question que je pose, mais je ne garderai pas forcément. C'était sur l'influence dans l'électorat du monde agricole. Il est constaté depuis quelques décennies, dû de cette disparition de cette activité professionnelle, une moindre influence sur les campagnes électorales pour justement mener des campagnes politiques. Est-ce que ça, c'est un constat qui est vérifié ?
Après, il y a peut-être moins... Alors effectivement, on part de la population active, il y a moins d'agriculteurs et d'agricultrices aujourd'hui.
Je crois que c'est 300 000 aujourd'hui, hein, il me semble.
Il reste effectivement, on a la fermeture, il me semble qu'il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine dans notre pays. Enfin, on a une disparition des agriculteurs et des agricultrices sur tout le territoire qui devrait nous inquiéter. Mais en réalité, la place de l'agriculture est fondamentale dans notre pays. On s'en rend de moins en moins compte et c'est ce qui provoque aussi tout ce qu'on connaît en matière de maladies chroniques, en matière de déséquilibre alimentaire. On a une vraie déconnexion aujourd'hui entre ce que nous mangeons et celles et ceux qui produisent ce que nous mangeons. Ça, c'est par la multiplication du nombre d'intermédiaires. Là, on voit le rôle de la distribution, des grosses industries, notamment dans la superinflation qu'on est en train de vivre ce mois-ci, comme si on n'en avait pas assez en matière de hausse des prix. Mais il y a une déconnexion et ça provoque aussi des troubles en matière alimentaire. Ça provoque des vrais des vrais questionnements que nous devrions avoir en tant que société sur notre santé de manière générale. Les maladies chroniques sont en train de se multiplier à une vitesse affolante. On voit l'augmentation du nombre du taux d'obésité aussi dans notre pays. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles même qui ont toujours vécu en ville, par exemple, qui ne savent même pas ce que c'est du poulet et qu'est-ce que et d'où ça vient et qu'est-ce qu'un poisson sinon de l'avoir vu paner dans des boîtes au supermarché. Donc aujourd'hui il y a un enjeu fondamental à se reconnecter à notre agriculture, à savoir comment poussent les plantes que nous consommons et arrêter de consommer des produits ultra transformés qui sont très mauvais pour notre santé. Donc c'est tout l'enjeu finalement de la loi d'orientation agricole qui arrive, mais c'est tout l'enjeu aussi d'accompagner l'information à la bonne alimentation auprès des plus jeunes, mais aussi des aînés. Hein. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui est bon aujourd'hui de manger et de se reconnecter effectivement au travail de la terre. Là, on a un enjeu majeur, c'est de réinstaller 1 million de paysans et de paysannes sur nos terres. Et ce sera une manière aussi de reconnecter la question de l'alimentation à la question de l'agriculture.
Ça aborde l'artificialisation des sols aussi. On en a un exemple dans le Diwa avec un terrain agricole qui va être voué à une zone d'activité. Donc il y a un combat actuellement. Est-ce que ce combat est à l'image de ce que l'on peut trouver aussi au travers de la France ? Est-ce que ça sera une des préoccupations sur cette loi d'orientation de politique agricole également ?
Il y a un gros travail qui est fait dans le Diwa. Alors même s'il y a des projets qui peuvent être menés, mais il y a un gros travail qui est fait dans le Diwa et c'est vraiment quelque chose qui est rare et qui est à noter de préservation des terres agricoles, notamment dans le PLU. Hein. Il y a un vrai travail qui a été mené par les élus et je voulais quand même saluer ce travail-là qui est de garantie de préserver les terres agricoles sur le territoire du Diwa. Maintenant, c'est un enjeu qui est fondamental, effectivement, qui concerne tout le pays. C'est tous les 10 ans un département qui... la surface d'un département français qui disparaît artificialisée. Et donc là, on a une bataille qui est majeure à mener. Alors, elle se mènera notamment au travers de ce projet de loi, bien évidemment. On doit garantir de la surface agricole pour les paysans et les paysannes qui vont s'installer dans les années à venir. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la France est au-dessus de la moyenne des pays européens en matière d'artificialisation des sols. Ça va à une vitesse affolante. Il nous faut lutter contre les projets d'artificialisation, que ce soit l'implantation d'entrepôts Amazon. Et il y a des collectifs qui se battent un petit peu partout sur le territoire français pour lutter contre ces nouveaux méga-projets, les fermes-usines, ce type d'entrepôts, mais aussi les projets routiers. Moi, j'en fais un axe de bataille qui est fondamentale à mon sens. On est en 2023, on sait les impacts des changements climatiques, on sait à quel point on est en retard en matière climatique, et c'est des combats que j'avais pu mener même avant d'être élue au sein de l'association Notre Affaire à Tous. Et pour autant, on a aujourd'hui 18 milliards d'euros d'argent public qui sont provisionnés sur des projets d'extension routière. Ça veut dire des échangeurs, ça veut dire des contournements, ça veut dire des doublements de voies routières, et ça notamment sur nos territoires. Moi, je pense là à l'échangeur de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui est un projet qui va coûter 22 millions d'euros, principalement de l'argent public, et qui va être investi pour créer un nouvel échangeur entre deux échangeurs existants. Là, on parle d'un tronçon de 20 km de long, où il y a déjà deux échangeurs, mais il faudrait en créer un autre au milieu. Donc, c'est un échangeur qui n'est absolument pas utile pour le territoire. C'est un échangeur qui va manger sur des terres agricoles. C'est un échangeur qui va coûter 22 millions d'argent public, sinon plus. Et tout cela, pour moi, ce sont des projets du passé. Il nous faut combattre, effectivement, ces projets qui sont absolument inutiles, qui ne contribuent pas à la richesse du territoire et qui, par ailleurs, enferment encore plus les citoyens, les citoyennes de nos territoires ruraux dans des non-choix en matière de mobilité. Aujourd'hui, le tout-voiture n'est pas un modèle pour l'avenir. L'enjeu, c'est le droit à la mobilité pour chacun et chacune. Quand le carburant est à 2 euros le litre, en réalité, créer des nouvelles voies routières et construire des nouvelles infrastructures, en tout cas pour que les gens puissent se déplacer en voiture individuelle, c'est pas une offre de liberté du tout. La liberté aujourd'hui, elle est dans la capacité à construire des alternatives à la voiture individuelle, des transports en commun, des navettes, du transport à la demande, notamment sur nos territoires ruraux. Des infrastructures cyclables aussi, et c'est une vraie demande du côté de Saint-Paul, Trois-Châteaux, je continue sur cet exemple-là, mais il nous faut, et par ailleurs, pouvoir garantir que les services publics ne s'éloignent pas de plus en plus de nos territoires parce que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc on a toutes ces batailles à mener contre, effectivement, un modèle du passé qui tend à continuer à essayer d'imprimer sa marque. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont tout à fait dépassés et il nous faut les combattre pour effectivement préserver nos terres, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient des écosystèmes incroyables en matière de préservation de la biodiversité.
Hier soir avait lieu une conférence sur les femmes et la ruralité. Femmes et ruralité, vous étiez présente, tout comme Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme, et de Isabelle Bizoire, maire de Diche. C'était animé par Nikita Smith. Il y avait un public relatif. Et justement, ça mettait en évidence ce manque d'engagement de la population et peut-être même des générations sur cette problématique du féminisme et des minorités de genre. Comment, d'après vous, faudrait-il motiver la population ou au moins de leur faire prendre conscience de cette problématique ?
Alors, je ne sais pas si c'est une soirée qui peut montrer l'attachement ou en tout cas la préoccupation qui peut être celle du combat pour les droits des femmes et pour les minorités de genre dans le pays et puis aussi sur ce territoire-là. Moi, je crois qu'ici, il y a beaucoup de gens qui tiennent à ces valeurs-là, qui tiennent à l'égalité femmes-hommes, qui tiennent à la reconnaissance des minorités et de leurs droits dans l'espace public et qui se battent tous les jours en cela. Je le remarque à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui avait lieu avant-hier, du coup. En réalité, mon élection, c'est aussi une marque que les choses sont en train d'évoluer. Les Drômoises et les Drômois, même dans les territoires ruraux, et ma circonscription est une des plus représentatives de la grande ruralité en France. J'ai 240 communes sur la circonscription. Elle s'étend du Royan jusqu'au bout des Baronnies, en comptant le Tricastin, Chabeuil. Et sur une circonscription comme celle-ci, les Drômoises et les Drômois ont fait le choix d'élire une députée écologiste, une jeune femme drômoise de 32 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, je crois, symboliquement, veut dire quelque chose. Parce que oui, les choses avancent. Alors elles avancent pas assez vite. Des jeunes députés, on en a pas assez. Moi, je fais partie des plus jeunes dans l'hémicycle. Des femmes députées, on en a pas assez. C'est 36% la moyenne des groupes en matière de parité. Donc il y a 36% de femmes en moyenne dans les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai la grande fierté d'appartenir au groupe écologiste où nous sommes 56% de femmes. Nous sommes le seul groupe à l'Assemblée nationale à faire plus que la parité, et c'est un bonheur incroyable que de pouvoir défendre la Drôme, que de pouvoir défendre nos droits, nos libertés, défendre un autre monde possible, entouré de femmes et de modèles finalement à l'Assemblée nationale. Donc c'est une vraie fierté. Les choses avancent lentement. Elles avancent trop lentement. On a encore trop de sujets sur la question de l'inégalité femmes-hommes. Je pense bien évidemment aux inégalités de salaire. C'est encore plus de 15% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Si on devait s'arrêter en tant que femme de travailler, lorsqu'on arrête d'être payée, on arrêterait chaque jour de travailler à 15h40. Donc on finirait pas forcément nos journées. Donc il y a des mobilisations qui ont lieu sur ces sujets-là. Il y a des inégalités en matière de partage de l'espace public. Il y a des inégalités en matière de retraite. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est 40% de différence de pension entre femmes et hommes encore aujourd'hui. Et la réforme des retraites ne va faire qu'aggraver ces inégalités déjà existantes entre femmes et hommes. Il y a des inégalités aussi dans le champ politique. Donc j'en parlais à l'instant. On est très loin de la parité. On est très loin d'un espace politique qui soit égal entre femmes et hommes et d'une considération qui soit portée également aux femmes politiques qu'aux hommes politiques. Et puis, on l'a mentionné aussi hier soir, mais dans nos territoires ruraux, il y a des enjeux spécifique à la question de la défense des droits des femmes. Je pense aux mobilités. Les femmes dans les territoires ruraux souffrent d'inégalités aussi en matière de droit à la mobilité. Pour vous dire, hein, rien que sur la question du permis de conduire, c'est 90% des hommes qui ont le permis dans nos territoires ruraux et seulement 80% des femmes. Donc elles ont moins accès à tout cela sans... Et à cela, il faut ajouter le fait que, du fait des inégalités économiques et salariales, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à une voiture, de pouvoir se payer le carburant, etc. etc. Les femmes dans les territoires ruraux sont beaucoup plus victimes de violences que dans le reste, enfin, que dans les métropoles. C'est un chiffre qui avait été démontré par la mission sénatoriale dont Marie-Pierre Monnier était rapporteure. Mais 50% des féminicides ont lieu dans les territoires ruraux, alors que seulement 30% de la population y vit. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est souvent lié à l'isolement, c'est souvent lié aussi à l'interconnaissance, au manque d'anonymat dans ces territoires-là, au manque de moyens des associations, mais aussi de la gendarmerie et de la police nationale, pour pouvoir recueillir les plaintes au plus près des personnes qui sont victimes des violences intrafamiliales. Donc c'est des combats que nous menons de front avec Marie-Pierre à l'Assemblée et au Sénat pour faire valoir ces voix-là. Et puis par ailleurs, il y a un sujet global. Donc les femmes sont plus précaires que les hommes dans notre pays. La plupart des personnes en CDD sont des femmes. La plupart des personnes en temps partiel sont des femmes dans notre pays, et du coup on souffre d'une plus grande précarité, et ça c'est une inégalité qui est encore aggravée dans les territoires ruraux. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il a été donné hier soir, mais les femmes sont encore plus précaires que les hommes d'une même génération, en tout cas dans les territoires ruraux, et tous ces sujets-là, il faut qu'on les mène de front. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans tout le pays, aussi sur nos territoires, de ces sujets-là. Et c'est notre travail derrière que de la concrétiser, que d'emmener cette prise de conscience vers des victoires politiques. Aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes, elle est inscrite dans la Constitution. Notre enjeu, c'est de faire appliquer ce droit. Et ça demande une vigilance collective de tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on disait aussi hier, mais on l'a dit tous ces derniers jours. Mais la Journée internationale des droits des femmes, c'est pas un jour dans l'année... c'est vraiment un combat de chaque jour. C'est une bataille que nous devons à nos aînés qui ont conquis tous les droits grâce auxquels je suis là à la radio en tant que députée de la Drôme pour vous parler. Mais c'est aussi une bataille que nous devons à celles qui se battent partout dans le monde. Là, je pense à celles aux États-Unis qui voient leurs droits à l'IVG de plus en plus menacés. Je pense aussi aux femmes iraniennes qui font face à un régime absolument ignoble et qui les menacent, qui les gazent aujourd'hui juste parce qu'elles existent. Donc cette menace faite aux femmes, elle existe, elle existera de tout temps. Et c'est pour ça que nous menons à l'Assemblée nationale la bataille pour la reconnaissance de l'IVG dans la Constitution. Nous avons pu adopter cette reconnaissance-là à l'Assemblée nationale il y a quelques mois désormais. Le Sénat a enfin franchi le pas il y a quelques semaines. Maintenant, nous attendons qu'Emmanuel Macron propose un projet de loi pour qu'on inscrive ce droit fondamental finalement à pouvoir faire ce que nous souhaitons de notre corps dans la Constitution française.
Je reviens sur ce propos, justement sur cet accès du droit à l'avortement inscrit dans la Constitution. Emmanuel Macron parle de la liberté de l'avortement. Est-ce que c'est une subtilité que vous avez saisie ? Est-ce qu'il y a une différence entre le droit et la liberté ?
Alors non, bien évidemment, nous, ce que nous demandons, c'est le choix et c'est la liberté de disposer de notre corps comme nous le souhaitons pour chaque femme dans notre pays. Et donc, bien évidemment, que ce droit à l'IVG équivaut à une liberté et à un choix qui sera donné à l'ensemble des femmes de disposer de leur corps, de faire le choix d'avorter ou pas et de pouvoir vivre comme elles l'entendent.
Ça rejoint un peu aussi la problématique des déserts médicaux. Hein. Vous parliez de santé, consécutivement aussi ces développements de maladies et d'obésité notamment. Ça fait partie aussi de votre combat. Vous proposez d'ailleurs différentes pistes. Une proposition de loi sur un contrat d'engagement de service public par rapport aux étudiants en médecine, ce qui leur permettrait d'avoir en quelque sorte un pied à terre dans le monde rural. Et puis aussi de mieux répartir les médecins sur les territoires, comme c'est déjà fait pour les pharmacies.
Tout à fait. C'est, tout cela est un combat global en faveur de la ruralité. De manière générale, dans les politiques publiques, les enjeux des territoires ruraux ne sont pas pris en compte. Et c'est ce qui conduit finalement à un sentiment de déclassement, de ne pas être considéré par rapport, en tout cas, à ce qui peut être vécu dans les métropoles et dans les territoires plus urbains. Donc moi, mon combat à l'Assemblée nationale, c'est celui de faire en sorte que les territoires ruraux, que ce que nous vivons ici, dans le Divois, mais ce que nous vivons aussi dans les Baronnies, dans le Vercors, dans le Crétois, dans le Tricastin, toutes ces réalités-là puissent avoir une voix à l'Assemblée nationale et puissent être défendues, parce que c'est pas parce qu'on vit dans un petit village dans le Haut-Divois qu'on a moins de droits que les autres. On paye tout autant d'impôts que les autres et on devrait avoir accès aux mêmes services publics et au même accès aux soins, en l'occurrence. Donc ça, c'est en fait l'ensemble des batailles que je mène. Alors, cette bataille-là contre la désertification médicale, nous la menons face à une incurie de l'action de l'ensemble des gouvernements jusqu'à présent, face au manque d'anticipation qui mène aujourd'hui à la situation actuelle, c'est-à-dire que nous n'avons plus de médecins, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient spécialistes, dans nos territoires. Alors, ce n'est pas forcément seulement un enjeu des territoires ruraux, par ailleurs, puisque on estime aujourd'hui que 90% du territoire français est un désert médical. On a 6 millions de personnes dans le pays qui n'ont pas d'accès à un médecin traitant, qui n'ont plus de médecin traitant. Et donc, c'est le parcours de soins dans son ensemble qui est en danger. Derrière, vous pouvez imaginer les conséquences de tout cela. Moi, je vous donnerai juste un chiffre. C'est l'écart d'espérance de vie entre les territoires ruraux et les territoires urbains. C'est 2 ans. C'est-à-dire qu'on vit 2 ans de moins dans les territoires ruraux que dans les territoires métropolitains. Et donc, on a un sujet. Parce que c'est tout à fait inacceptable comme état de fait. Et donc, on a commencé à travailler dès le début de la mandature dernière, sous l'impulsion de Guillaume Garot, qui est un député socialiste de la Mayenne et ancien ministre. On a travaillé de manière transpartisane, à trouver des solutions à la désertification médicale. On avait toutes et tous été interpellés pendant nos campagnes respectives sur cette question-là. Moi, je suis encore interpellée chaque jour qui passe par des Drômoises et des Drômois, par des élus locaux qui se préoccupent de cette question-là, de la désertification médicale. Je pense notamment dans la région Châtillon-Divois qui cherche désespérément un médecin généraliste pour le territoire. Et donc, on a décidé d'essayer de trouver des solutions. Et donc, on s'est unis avec une quarantaine de parlementaires de tout groupe républicain confondu, c'est-à-dire que c'est un groupe transpartisan qui va de la France insoumise jusqu'à les Républicains, en passant par la majorité présidentielle, en passant par le groupe écologiste, bien évidemment, les groupes socialistes, le groupe communiste. Et tous ensemble, on a mené plus de 80 auditions jusqu'au mois de décembre à peu près, et jusqu'au débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, à cette occasion du projet de loi de finances, nous avons déposé plein amendements pour pouvoir accélérer une meilleure répartition de l'installation des médecins spécialistes et généralistes sur nos territoires et voilà, et puis garantir aussi une démocratisation des études de médecine, de la formation et garantir une présence médicale et l'accès aux soins pour toutes et tous. Malheureusement, peut-être que vous avez vu, mais le PLFSS, il est passé très très vite devant nous puisqu'il est passé par 49.3. Nous n'avons rien pu déposer et donc le 7 janvier dernier, nous avons décidé de déposer une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre la désertification médicale. Nous l'avons déposée avec cette quarantaine de parlementaires dont je vous parlais. Elle a été depuis co-signée par plus de 200 parlementaires de tout groupe confondu, républicains à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire hors Rassemblement national. Et maintenant, nous demandons à la présidence de l'Assemblée de l'inscrire à l'ordre du jour de nos débats. Nous considérons que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous sommes interpellés chaque jour sur ce sujet-là. On ne peut pas continuer à se voiler la face sur ce fléau qui nous touche directement. Et donc, nous demandons à avoir ce débat inscrit à l'Assemblée nationale. Malheureusement, la présidence de l'Assemblée ne nous écoute pas. Le gouvernement ne souhaite pas que nous ayons ce débat-là. Donc, pour cela, nous avons entamé un tour de France des déserts médicaux. Et typiquement, il y a une semaine, lundi dernier, j'étais à Saint-Jean-en-Royans avec des collègues du groupe Les Républicains, un collègue du groupe Horizon, un collègue du groupe Socialiste et un collègue du groupe France Insoumise pour aller présenter notre proposition de loi aux citoyens et aux citoyennes du Royan. Par ailleurs, annoncer aussi notre pétition. On a lancé une pétition qui est disponible sur change.org à laquelle nous appelons l'ensemble de nos concitoyens à signer puisque c'est un enjeu qui nous concerne tous. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition de loi ? Il y a plusieurs propositions, c'est 14 articles, donc on essaye d'être le plus englobant sur cette question de la désertification médicale, sachant que, en réalité, il y a un sujet de pénurie de médecins, de manière générale, à combler. Alors, on trouve des solutions, hein, notamment sur l'installation des médecins qui ont été formés à l'étranger et qu'aujourd'hui, on a du mal, on a trop de process, en tout cas, pour leur permettre d'exercer sur les territoires en désertification médicale. Et donc là, il faut faciliter, en tout cas, l'exercice pour celles et ceux qui ont été formés à la médecine à l'étranger. Vous le mentionniez, on propose la démocratisation effectivement des études de médecine et donc c'est ça, hein, le contrat d'engagement de service public, c'est en fait se dire que si on veut des médecins dans le Diois, ça pourrait être pas mal de faciliter l'accès aux études de médecine pour des jeunes qui sont issus du territoire du Diois et qui pourraient être freinés avant d'entamer des études de médecine à Lyon, à Grenoble, à Avignon, non seulement par le coût des études de médecine, mais par ailleurs par tous les à côté. Et des études de médecine, c'est 10 ans. Quand on vient de Châtillon, peut-être qu'on peut se poser des questions sur le fait de payer un loyer pendant 10 ans à Lyon, de pouvoir se nourrir pendant 10 ans à Lyon sans travailler à côté de ses études, et puis même se projeter, se dire que c'est accessible pour nous, qu'on ne vient pas de ce monde-là médical. Et donc, là, tout l'enjeu, au travers de cette proposition qui fait partie de notre proposition de loi, c'est de démocratiser, c'est-à-dire d'offrir une bourse à celles et ceux qui viendraient de territoires sous-dotés en matière médicale pour qu'ils puissent poursuivre leurs études et qu'ils soient aidés par l'État pour cela. Et on se dit qu'un jeune du Diois, par exemple, qui aura poursuivi des études de médecine, sera plus à même à vouloir exercer sur son territoire d'origine en échange, du coup, d'une bourse qu'on pourra lui avoir attribuée pendant le cadre de ses études. Par ailleurs, cette proposition de loi, elle fait un pas en avant aussi par rapport à d'autres... par rapport à toutes les propositions de loi qui ont été déposées sur ce sujet auparavant, c'est-à-dire qu'elle instaure l'idée d'une régulation dans l'installation des médecins, c'est-à-dire que nous souhaitons que l'installation des médecins soit régulée, notamment dans les territoires surdotés. Alors ça concerne 10% des territoires, hein, comme je le disais, en matière médicale, mais en tout cas interdire la possibilité pour des médecins de s'installer dans des territoires déjà surdotés en matière de médecins, sauf pour remplacement de quelqu'un qui partirait à la retraite, et du coup de réguler l'installation vers des territoires sous-dotés. Ça ne contraint pas énormément les médecins non plus, sachant que 90% du territoire français, là encore, est un désert médical.
Comment expliquer justement cette pénurie de médecins dans le monde rural ? Qu'est-ce qui fait que c'est une profession qui se soit raréfiée ?
Bah, en réalité, c'est peu exceptionnel. Il y a énormément de... En fait, l'ensemble des métiers essentiels, de ce qu'on appelle les métiers essentiels, sont en grande difficulté de recrutement. Donc là, on parle des médecins, on pourrait parler des soignants dans les hôpitaux, on pourrait parler des chauffeurs de bus, on pourrait parler des enseignants dans l'éducation nationale. Là, j'étais il y a 2 jours sur le piquet de grève des salariés de la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche, et eux aussi, ils ont des grandes difficultés de recrutement. Et en fait, l'ensemble de ces secteurs essentiels n'arrivent plus à recruter. Et je crois que c'est assez symbolique d'une perte de sens dans notre économie, C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus, on partage de moins en moins le temps de travail par ailleurs, tout ça pour gagner de moins en moins puisque les hausses de salaire ne sont pas du tout à la hauteur de l'inflation. Et face au bouleversement climatique, face à l'explosion des inégalités, en fait, on manque de sens aujourd'hui dans le travail et dans ce que le travail devrait pouvoir apporter à la fois en termes de développement personnel, mais aussi en termes de développement de nos sociétés. C'est-à-dire dans quel sens on va, vers où on a envie d'emmener le pays et d'aller collectivement. Et je crois qu'on est en perte de sens de manière générale et de fait, on est dans une situation où souvent les métiers les moins essentiels sont les mieux rémunérés et celles et ceux et les métiers dont nous avons besoin absolument sont extrêmement mal rémunérés et extrêmement mal valorisés dans notre pays. Et je pense que la réforme des retraites, finalement, alors que 90% des actifs y est opposé, mais au-delà de la réforme des retraites, je crois que c'est ce système-là, c'est ce modèle-là d'injustice et de manque de sens dans la répartition du travail, dans la valorisation du travail qui est dénoncée au travers de cette opposition et au travers de ces mobilisations massives. Donc, voilà, c'est un modèle qu'il nous faut aujourd'hui re-questionner et les difficultés auxquelles on fait face vont s'accroître dans les années à venir si on ne prend pas en compte la volonté de chacun et chacune dans notre pays de participer à un effort collectif. Mais si cela a du sens pour nos sociétés, si cet effort collectif ne contribue pas à la destruction des écosystèmes et des capacités des futures générations à pouvoir vivre dignement sur Terre. Les gens sont prêts à faire cet effort collectif, mais si les métiers regagnent du sens, regagnent de la valeur, leur permettent de vivre dignement, et aujourd'hui on a trop d'emplois qui ne permettent pas à celles et ceux qui les font de vivre. Et là, je pense notamment aux emplois du care, aux emplois dans le secteur social. Et je rencontre tous les jours des personnes qui sont payées parfois 650 euros, parfois 800 euros pour un travail qui est prenant, qui est absolument essentiel d'aide à la personne. Et c'est insupportable de voir des personnes qui travaillent se voir rémunérées ainsi. Donc c'est tout cela qu'il nous faut questionner. Et je crois que cette perte de sens, c'est ce qui explique beaucoup des difficultés de recrutement aujourd'hui.
Je voudrais passer au nucléaire, qui est quand même un combat de l'écologie. Avec cette pénurie d'eau, de cette raréfaction, est-ce qu'il y a une inquiétude justement sur ce continuum du tout nucléaire ?
C'est un sujet sur lequel on travaille énormément à l'Assemblée nationale, puisque le texte va arriver en hémicycle lundi. Donc le texte d'accélération du nucléaire. Après, le gouvernement ne se pose aucune question sur la question de la sobriété, et c'est quelque chose que nous regrettons énormément, parce que la sobriété devrait être le pilier de toute politique énergétique pour les années à venir. Malheureusement, le gouvernement n'entend rien de cela. Pour lui, la sobriété, c'est l'école roulée le chauffage limité à 19 degrés dans toutes les pièces. Et en même temps, il accélère tout azimut la production énergétique sur notre territoire avec ce plan de relance du nucléaire qui a été proposé d'abord au Sénat et maintenant devant l'Assemblée nationale. Alors effectivement, pour nous, ce projet de loi d'accélération du nucléaire, il est dangereux. Il est dangereux parce que il démantèle finalement l'ensemble des normes environnementales, des capacités de nos installations nucléaires à faire face à des changements climatiques qui vont bouleverser notre monde dans les dizaines d'années à venir, faire face aussi aux sécheresses et faire face au manque d'eau. On sait que le débit du Rhône va baisser d'au moins 30% d'ici à 2050. Il va falloir arbitrer entre la consommation d'eau pour l'agriculture et pour l'irrigation et la consommation d'eau par l'industrie nucléaire. Et ça, on ne sait pas faire et c'est pas quelque chose qui est prévu aujourd'hui dans le projet de loi. Et puis par ailleurs, c'est un projet de loi qui démonte l'ensemble des processus démocratiques d'enquête publique sur l'installation de nouvelles centrales. C'est un projet de loi qui démonte toute capacité d'assurer la sûreté des installations futures, existantes mais aussi futures, à construire, puisque c'est aussi un projet de loi qui propose le démantèlement de l'IRSN et du coup des instituts garantissant aujourd'hui la sûreté des installations. Donc c'est un projet de loi que nous combattons. Nous regrettons la vitesse avec laquelle le gouvernement veut avancer sur ce sujet-là, le manque de concertation. Moi, j'étais la première porteuse d'une saisine de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, pour que nous ayons un véritable débat national sur la question du mix énergétique à venir. Mais elle n'aura pas eu le temps de pouvoir arbitrer sur notre saisine au vu de la vitesse de l'examen de ce projet de loi. On voit par ailleurs que rien n'est prévu en matière d'emploi et en matière de conditions de travail pour les salariés du nucléaire, puisque voilà, le bras d'honneur qui leur est fait avec le démantèlement de l'IRSN est quand même assez symptomatique de la vision du nucléaire pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de nucléaire dans tous les sens, mais rien pour celles et ceux qui le font. Donc c'est un combat aussi que nous portons. Nous nous opposerons bien évidemment à cette relance qui se fait bien trop rapidement, sans aucun respect des règles démocratiques en cours, sans aucun respect et planification des risques climatiques à venir, et sans aucun respect finalement des normes de sûreté que nous devons assurer à notre industrie nucléaire.
Nous abordons la réforme des retraites. Ça rejoint un peu aussi la problématique tout à l'heure des femmes qui ont 40% de revenus en moins que celui des hommes. Est-ce que justement cette réforme de retraite va encore plus amplifier ces inégalités, cette précarisation, et notamment celle des femmes ? Est-ce que ça aussi, c'est un secteur que vous avez tenté de combattre, je suppose, mais le temps étant imparti, vous n'aviez peut-être pas eu cette occasion ?
Oui, on s'est toutes et tous mobilisés à l'Assemblée nationale, au sein de la NUPES, contre cette réforme des retraites. Alors, on a eu des débats qui étaient très obstrués, notamment par la volonté du gouvernement d'aller extrêmement vite et de limiter le temps parlementaire sur cette réforme des retraites. Donc, on n'a eu que 2 semaines pour évoquer un texte qui va impacter la vie de millions et de millions de nos concitoyennes et de concitoyens. Donc, par l'usage d'outils parlementaires qui sont finalement la démonstration d'un exécutif tout puissant sur le débat parlementaire. On voit exactement le même développement au Sénat, hein, parce qu'en ce moment, le texte est sur la table des sénateurs et des sénatrices. Ce matin, le gouvernement a annoncé vouloir passer par vote, par vote bloqué sur la réforme des retraites au Sénat. C'est-à-dire que ce sera le gouvernement qui choisira les amendements qui seront mises au vote plutôt que les parlementaires et le vote des parlementaires. Donc c'est d'une brutalité sans nom, cette manière de gérer les débats parlementaires. Et donc, c'est assez effrayant. Hein. Moi, c'est la première fois que... Enfin, ça fait 6 mois que je suis parlementaire.
C'est, semble-t-il, inédit.
Oui, oui. Non, mais la multiplication de l'usage d'outils constitutionnels, hein, ils existent dans la Constitution, mais le fait de tous les utiliser les uns après les autres, et cela sur une période d'un mois, c'est du jamais vu en termes de brutalité, alors même que plus de 3/4 des Françaises et des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Donc c'est d'une très grande brutalité. Nous le vivons comme ça à l'Assemblée nationale et au Sénat, et par ailleurs, les Françaises et les Français qui sont mobilisés dans les rues aujourd'hui le sentent très bien, cette brutalité du gouvernement, et je trouve que les mobilisations jusqu'aujourd'hui ont été massives, ont été belles et ont été très dignes face à cette brutalité, face à cette violence de l'action du gouvernement sur ce texte de la réforme des retraites qu'il tente de nous imposer. Maintenant, pour en venir à la question de l'impact sur les femmes de cette réforme des retraites, oui, les femmes seront les premières victimes de cette réforme des retraites. Parce que cette retraite vient aggraver des inégalités déjà existantes, notamment dans le monde du travail. On a beaucoup entendu le gouvernement claironner le fait que chacun, chacune pourrait avoir accès à une retraite d'au moins 1 200 euros. Et suite à l'ensemble des débats parlementaires, on a pu montrer que ce n'était absolument pas le cas. Finalement, Olivier Dussopt a admis ce matin par écrit que ce serait maximum 10 à 20 000 personnes potentiellement qui pourraient recevoir cette retraite minimale à 1 200 euros, sachant qu'elle s'appliquerait à 2 conditions. La première, avoir fait une carrière complète. La deuxième, avoir été payée au minimum au SMIC. Vous pouvez demander à l'ensemble des femmes autour de vous laquelle coche ces 2 conditions aucune.
Même pour les hommes.
Tout à fait. Alors, il y a très peu d'hommes déjà qui satisfont ces deux conditions, mais aucune femme ne peut satisfaire ces deux conditions. Les femmes sont... sont celles qui souffrent le plus de carrières hachées, qui sont souvent celles qui travaillent à temps partiel, souvent pour faire le travail à la maison, pour s'occuper des enfants. Tout ça, c'est aussi du travail qui n'est absolument pas valorisé dans nos sociétés et qui n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB. Mais en fait, cette réforme des retraites, elle ne reconnaît pas le rôle que peuvent avoir les retraités, mais aussi toutes celles et ceux qui sont peut-être pas salariés, mais qui pour autant font tant de bien à nos sociétés, et notamment dans les territoires ruraux. En fait, quand on est au chômage ou quand on a un petit peu moins de temps de travail, ça permet aussi de s'engager dans la vie associative, ça permet de s'engager pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ses aînés. Tout cela, c'est du travail. Tout cela, c'est du travail essentiel. Et tout cela, c'est absolument pas reconnu aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les instruments de mesure de la richesse dans notre pays, mais c'est quelque chose qui va être encore abîmé par cette réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on abîme les fondements même de l'ensemble du tissu associatif, l'ensemble des solidarités qui existent sur notre territoire, l'ensemble de l'engagement aussi au service du vivant, au service de la protection de la biodiversité, au service de la planète. On a besoin de gens qui ont du temps hors travail, et donc finalement, c'est un modèle que nous combattons, combattons la réforme des retraites, celui du travailler toujours plus dans un modèle productiviste et destructeur. Nous disons travaillons moins mais mieux et partageons mieux le travail. Chacun pourra travailler dans des travaux qui ont du sens.
Dernière question, dans le contexte économique, social, actuel, un peu tendu, même très tendu, quelles sont les perspectives et les enjeux et peut-être aussi les réflexions au sein de la NUPES quant à l'avenir?
Avec la NUPES, on reste unis. La NUPES, c'est un accord électoral, mais c'est aussi un accord programmatique. C'est-à-dire que moi, députée, j'ai été élue sur un programme qui est partagé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par 151 députés de 4 groupes politiques différents, les Insoumis, les Communistes, les Socialistes et les Écologistes. Et autour de ce programme-là, nous sommes unis et nous battrons face à toute réforme régressive du gouvernement en matière climatique, en matière sociale, en matière démocratique, nous battons en commun. Donc on a énormément de mesures en commun sur ce programme, parce qu'il était, je crois, le plus complet qui était présenté aux électeurs et aux électrices en juin dernier. Donc ça nous donne un cap commun pour les années à venir. Et donc ça va nous permettre de combattre ensemble les différents projets de loi du gouvernement. Là, on parle de la réforme des retraites et on va rester mobilisés derrière l'intersyndicale, derrière les citoyens et les citoyennes qui sont mobilisés pour combattre cette réforme des retraites. À l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue. Là, on parlait à l'instant du projet de loi d'accélération du nucléaire. On va peut-être avoir des votes différents. C'est assez connu de tous que là-dessus, typiquement, le Parti communiste est plutôt favorable à la relance du nucléaire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas favorables à n'importe quelle condition à la relance du nucléaire. Et sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués, sur la question de la sécheresse, sur la question de la résilience face au changement climatique, sur la question des enquêtes publiques qui sont nécessaires, sur la question des conditions de travail des salariés, notamment la lutte contre la sous-traitance dans l'industrie du nucléaire, en fait, on fonctionne ensemble. On a ces mêmes valeurs partagées pour la démocratie, pour la justice sociale, pour la solidarité et pour l'écologie qui sont partagées entre ces différents groupes. Donc ça nous permet d'être coordonnés quand même sur ces projets de loi, même si à la fin on peut avoir des votes un petit peu différents. On le fait de manière coordonnée et on partage un même système de valeurs qui nous permet d'avancer ensemble. Et on va avoir d'autres textes à venir. Je pense à la généralisation du SNU, du Service National Universel pour notre jeunesse. Ça, c'est un projet qui est proposé à notre jeunesse qui est absolument effrayant, coordonné par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi celui des armées, qui veut mettre notre jeunesse au pas. Ça, c'est un projet que nous combattrons ensemble avec l'ensemble de la NUPES et et aux côtés de l'ensemble des organisations de jeunesse. Je pense à la loi Asile-Immigration, qui va être le grand projet de loi porté par Gérald Darmanin, et qui va être, qui risque d'être terrible pour la patrie des droits humains telle que nous prétendons l'être en matière d'accueil et d'insertion de celles et ceux qui cherchent refuge et qui cherchent asile sur notre territoire. Donc on a toutes ces batailles en commun, et là c'est toutes les batailles que nous allons mener contre le gouvernement, mais il y a toutes les batailles que nous devons mener pour un autre monde possible, et ça se construit au niveau des territoires aussi. On est coordonnés, on agit ensemble. Moi j'ai grand espoir que la NUPES puisse être un outil dans les années à venir, et je pense bien évidemment à 2027 en premier lieu, où il va falloir nous être unis, notamment face à la montée du Front National et aux idées xénophobes dans notre pays. Mais je pense aussi aux élections municipales où il sera important qu'on puisse se parler, qu'on puisse se respecter, qu'on puisse se coordonner pour pouvoir porter d'autres projets au niveau municipal, des projets de végétalisation, des projets de mieux vivre ensemble, des projets de dignité dans nos villes et dans nos villages. Moi, ce sera ma responsabilité et mon honneur que d'accompagner des listes citoyennes, de gauche, écologistes, sur l'ensemble des territoires de notre très belle circonscription.
La toute dernière, la jeunesse aujourd'hui ne se sent pas écoutée par les pouvoirs. Est-ce que vous, pour vous, et pourtant on les a cultivés dans cette notion du respect de la nature, du droit, et en même temps, par constat, on voit que rien ne se fait concrètement au niveau des pouvoirs. Est-ce que la NUPES aussi souhaiterait être un écho de ce que veut la jeunesse ?
Je crois qu'on a un gouvernement qui assume pleinement de tabler sur la fatigue des gens. Ils le disent très bien, hein, c'est même leur élément de langage sur la question de la réforme des retraites. Ils comptent sur la résignation des Françaises et des Français. Moi, je trouve ça effrayant, en réalité, comme manière de voir les choses et de mener des politiques publiques dans notre pays. De fait, il y a aujourd'hui 75% des jeunes de moins de 19 ans qui pensent et qui sont convaincus que la fin du monde adviendra avant la fin de leur vie. C'est effrayant, cette éco-anxiété. Et par ailleurs, elle est tellement légitime qu'on ne peut même pas leur dire « mais non, tout ira bien ». On n'est même plus en capacité de dire ça aux jeunes aujourd'hui. Et donc, je les vois mobilisés. J'étais ce matin au lycée à Cré, qui est bloqué depuis plusieurs jours par les lycéens et puis par les collégiens. Et je vois leur inquiétude. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'être responsable en leur nom. Ce n'est pas de leur laisser le poids de l'ensemble du monde que nous leur laissons. À chaque fois, on voit des jeunes mobilisés, on se dit « ah, bravo, ils sont très conscients de la crise climatique, c'est génial, cette nouvelle génération va vraiment changer les choses ». Moi, je trouve ça absolument scandaleux de se dire ça. Je pense qu'on a une part de responsabilité. Alors, moi, je ne suis pas la plus vieille des députés, bien évidemment, mais je crois que c'est une responsabilité qui est partagée. Et nous, personnel politique, sénateurs, sénatrices, députés, maires, l'ensemble du personnel politique doit être à la hauteur de la responsabilité qui est la nôtre, à la hauteur de la responsabilité que prennent ces collégiens, que prennent ces lycéens quand ils se mobilisent pour la planète. Et donc nous, notre boulot, c'est de leur ouvrir un chemin vers des jours heureux, de leur garantir un avenir qui est vivable, un avenir où ils ne respireront pas un air pollué, où ils ne mourront pas de maladies chroniques, où ils ne verront pas le monde s'effondrer après été dans des incendies monstres et dans des canicules interminables. Notre boulot, c'est d'éviter ça et d'être à la hauteur du moment. Et oui, le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur du moment. Il a été condamné par deux fois pour inaction climatique. On ne suit pas du tout la bonne trajectoire. Et je crois que voilà, notre travail, c'est d'être à leur côté, de leur apporter soutien, de leur apporter courage et de leur ouvrir la voie vers un monde meilleur. Et il est encore possible ce monde meilleur. Véritablement, tous les scénarios du GIEC le disent, et les scientifiques nous le disent, on peut encore changer de trajectoire, et notre bataille doit être celle-là, immédiatement, et de manière très ambitieuse, dès maintenant.
On peut vous rencontrer sur certaines permanences dans le Diois.
Alors, je n'ai pas de date à annoncer aujourd'hui.
C'est une fois par mois environ.
Alors, La meilleure manière, en réalité, d'être au courant de tout ce que je fais. Alors, bien évidemment, moi, je suis assez active sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, où je poste régulièrement tout ce qu'on peut faire à l'Assemblée nationale, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la circonscription. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et puis, par ailleurs, moi, j'envoie un journal de bord toutes les semaines qui raconte tout ce que je peux porter à l'Assemblée nationale et tout ce que je peux faire sur le territoire drômois. Moi, je considère que ça fait partie du travail de rendre compte des députés. Je considère que c'est normal pour un élu que de rendre compte de son action et de pas juste venir voir ses concitoyens tous les 5 ans pour leur demander de voter pour lui. Donc j'essaye de rendre compte au maximum, mais vous pouvez vous abonner à ma newsletter en allant sur le site mariepochon.fr/nous-rejoindre et vous pouvez comme ça être au courant à la fois de tout ce que je peux, de tous les combats que je peux mener, mais aussi de tous les rendez-vous en circonscription. Et donc effectivement, en plus de ces outils-là, on organise pas mal de choses sur le territoire, notamment des cafés citoyens, mais aussi des permanences décentralisées. Moi, ma permanence, elle est basée à Cré, devant la gare, mais sur une des plus grandes circonscriptions de France, il nous paraît essentiel d'être partout. Donc, on essaye, dans la limite de notre capacité, bien évidemment, physique, mais d'être présent sur tous les territoires de la circonscription. Et donc, on organise régulièrement des permanences décentralisées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour m'exposer un problème ou même un projet qui vous tient à cœur, mais aussi des cafés citoyens où on échange collectivement, où je rends compte de mon action, et ensuite vous pouvez poser des questions dans un cadre convivial et informel. Donc voilà, on a un petit peu tous ces outils. Le meilleur moyen d'en être informé, c'est via ma newsletter. Et puis généralement, on l'annonce aussi dans les mairies, on l'annonce aussi dans la presse locale un petit peu à l'avance pour qu'on soit le plus nombreux et le nombreux possible.
Marie Pochon, je vous remercie d'être venue sur Air d'Ivoire et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.